17h15, salut Luc Ferrandez.
Salut Patrick.
Est-ce que infarctus de Alain Choquette à 57 ans, toi qui as 57 ans, ça te fait-tu un peu fliquer?
Écoute, j'écoutais avec attention le docteur Junot. Il parlait de mauvaises habitudes de vie, de bédaine.
Tu te reconnaissais?
Non, mais des gens autour de moi, mettons.
OK. Parce que toi tu pédales
non, moi
pas
aussi
mal.
Un peu. Non, moi aussi un peu.
Mais tu dois être le genre à être végétarien, toi?
Écoute, je te l'ai dit l'autre fois, j'essaye, mais je suis pas capable.
Ça doit être pour ça que t'es parti. En fait, t'as pas démissionné, c'est Projet Montréal que t'as mis dehors. Tu manges encore de la protéine animale.
J'étais dans un coin de la cafétéria en train de manger un hamburger.
Ils ont dit c'est assez, Luc.
Tu remontes même pas à ton bureau, à Hawaii d'abord.
OK, parfait. Parle-moi d'Hydro-Québec qui fait face à des vents contraires aux États-Unis.
Oui, mais avant, je peux-tu te parler d'un tweet que François Legault... Oui.
On va inverser,
écoute,
parfait.
Oui, merci, parce que ça va passer plus vite, le tweet. Mais écoute, j'ai failli avoir l'infarctus japonais, là, comme il l'a appelé, le oui. Yoku Basso, je sais pas quoi.
Oui.
Quand j'ai lu ça, parce que GNL Québec, là... La firme de relations publiques a décidé d'appeler Énergie Saguenay pour essayer d'avoir une sorte d'appropriation des gens du Saguenay autour du projet, puis essayer de défendre le projet. Mais bon, c'est pas du tout des investisseurs du coin, puis ça va surtout détruire le pays là-bas. Donc, ce projet-là avait beaucoup de plomb dans l'aile parce que l'excellent journaliste de la presse qui a pris sa retraite, André Noël, a fait une recherche sur le promoteur qui disait vouloir faire ce projet-là pour des raisons environnementales, pour remplacer le charbon. Et on apprend que c'est lui-même un très gros investisseur. Il possède il est copropriétaire d'une des plus grosses centrales de charbon aux États-Unis. Sa femme, elle est propriétaire d'une flotte de bateaux qui transporte du charbon à travers le monde. Et il a été le principal financier de Mitch McConnell, qui est le leader de la majorité républicaine au Sénat, puis qui avait mené la bataille contre les mesures anti-charbon de Barack Obama.
Et Luc, pour ajouter, c'est quelqu'un qui finance des efforts qui nient le réchauffement climatique.
Oui, il finance des groupes qui travaillent des climato-sceptiques. Alors, quand le gars, il s'amène ici avec son petit sourire niais, en disant « Oh, je fais ça pour l'environnement », etc., on s'attendrait à une réponse un peu... pas musclé, mais disons sceptique. Et là, non, Legault qui met un tweet hier, « Bonne rencontre avec les dirigeants, ça rapporterait 250 emplois à 100 000 $ par année et le projet réduirait les GES de 28 millions en remplacement des centrales au charbon. » Donc, lui, il a avalé le Kool-Aid et c'est le premier ministre du Québec. Et on va être en BAP là-dessus, donc il a promis qu'il y aurait une étude environnementale approfondie. Et dans le cadre de cette étude-là, on a promis qu'il y aurait une étude, pas simplement de la centrale, mais des effets à la source puis des effets à la vente. Et là, tout à coup, il n'y a plus rien. Alors, je me suis demandé, ont-ils engagé un stagiaire pour faire les tweets, puis ça lui a échappé. Je peux pas croire.
Mais écoute, les promoteurs de GES, les promoteurs de GNL Québec, eux disent, si ça voit le jour, si on peut faire transiter du gaz naturel là, dans le Saguenay, ça va remplacer des centrales au charbon. Est-ce que ça, c'est avéré?
Mais non, pas du tout. Il y a aucun contrat en main en ce moment de GNL Québec pour démontrer que ça remplacerait du charbon. Ça, c'est juste un vœu pieux. Et encore, c'est un vœu pieux qui est basé sur des analyses d'il y a plusieurs années parce que il a été découvert que les gaz de schiste sont beaucoup producteurs de GES, contrairement à ce qu'on pensait où on se disait tout le temps, le pétrole, tu vois, le charbon, c'est environ 1,3 fois les GES du pétrole. Et le pétrole, le gaz, c'est beaucoup, beaucoup moins que le pétrole. Donc, c'est un gros gain. Mais récemment, on a découvert que lorsqu'on fait des gaz de schiste, il y a beaucoup de fuites de gaz. Et le gaz, lorsqu'il n'est pas brûlé, lui, c'est du méthane et il a un impact très, très, très fort sur le réchauffement climatique. Alors, avant de dire que c'est la solution miracle pour la transition, là, il y a vraiment de la coupe aux lèvres. On est loin. Il y a beaucoup de distance entre la coupe et les lèvres.
Parfait. OK, parle-moi d'Hydro-Québec là, qui fait face à des vents contraires aux États-Unis.
Ben oui, tu sais que il y avait eu une résistance du feu de Dieu au New Hampshire pour le passage de la ligne qu'on appelait Norton Pass. Et là, ils se sont dit, ben on va se reprendre différemment, on va aller par le Maine. Et là, au Maine, il y a par le procédé de référendum d'initiative populaire, donc des gens qui se sont emparés de la question. Et ça veut dire que s'ils ont 63 000 signatures, ils vont réussir à bloquer le projet. Le projet va être bloqué temporairement et va être envoyé en référendum lors de l'élection de 2020. Et on peut se demander pourquoi il y a tant de résistance aux États-Unis au passage de lignes hydroélectriques. Il y en a si peu au Québec. En fait, il y en a beaucoup au Québec aussi. Mais Hydro-Québec a le droit de passer des lignes où ils veulent, quand ils veulent. Et là, ils se rendent compte que c'est très, très, très difficile aux États-Unis parce que la ligne du Maine, il y avait le 2/3 de la ligne devait passer sur un corridor déjà existant. Il y avait seulement 1/3 de la ligne qui passait dans un nouveau corridor. Puis dans le nouveau corridor, c'est un corridor qui passait dans des forêts, mais des forêts exploitées. Donc, c'est des forêts où il y a de la coupe. Alors, on aurait pu penser que le projet était bien ficelé, d'autant plus qu'il donnait 30 millions CPM, là, la firme de Main Power Corporation. Il leur donnait 30 millions, puis en plus, il y avait toutes sortes de petits gains environnementaux là, qui étaient faits dans les lieux de passage de la ligne, des petites subventions qui étaient faites. Mais ça passe pas quand même. Ça arrête constamment. C'est quand même bloqué. Alors, d'où le voyage de Legault à Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick. Parce qu'il se dit, si je peux pas passer ce bord-là, je vais peut-être essayer de passer de l'autre côté. Et il y a une entente qui a été faite avec le Nouveau-Brunswick. D'abord pour vendre 2,2 TWh d'énergie au Nouveau-Brunswick, mais aussi pour pouvoir utiliser les interconnexions qu'ils ont avec le Maine. Alors, les lignes du Maine sont des lignes qui longent l'océan et il y a peu de lignes nord-sud. Alors là, peut-être qu'en passant par le Nouveau-Brunswick, on pourrait utiliser cette ligne-là qui est une ligne à 345 kV et faire passer cette ligne-là à 1000 kV et donc avoir assez de puissance pour pouvoir atteindre les fameux marchés du Massachusetts et de New York. Mais c'est loin encore là d'être un projet réussi. Alors, on voit qu'il dépense beaucoup d'énergie. Il a aussi été rencontré, tu te rappelles, il avait reçu Doug Ford à sa maison personnelle à Outremont avec son épouse et pour essayer de lui vendre un projet d'énergie aussi parce que l'Ontario doit rénover ses centrales nucléaires. Et là, il s'est dit, à juste raison d'ailleurs.
C'est l'occasion pour le Québec de vendre de l'hydroélectricité.
C'est ça, parce qu'à ce prix, tu sais, au coût que ça prend pour rénover une centrale, il s'est dit, construisons plutôt des centrales, des barrages au Québec. Il acceptait même que ça soit avec des travailleurs de l'Ontario. Les travailleurs de l'Ontario auraient pu participer à la construction. Et le Doug Ford a refusé. Alors, il s'est fait refuser du côté de l'Ontario. Il s'est fait refuser du côté du New Hampshire. Mais il y aurait peut-être une possibilité du côté de... le Maine, c'est pas encore terminé. Là, le refus n'est pas encore proclamé, mais c'est en cours. Enfin, du moins, il y a un nuage sur le projet. Et il y a une autre possibilité, peut-être, en passant par le Nouveau-Brunswick. Alors, on voit qu'il dépense énormément d'énergie et on peut comprendre parce que c'est une charge, les surplus d'énergie d'Hydro-Québec.
Ça serait fun de pouvoir les vendre.
C'est 1 milliard par année que ça nous coûte. Hein. Okay. C'est 1 milliard qu'on mettrait dans nos poches et ça aurait un impact direct sur la facture des Québécois de façon, pas de façon directe, mais de façon indirecte, un impact sur la facture parce que si tu vas chercher ce milliard-là à l'exportation, tu fais moins de pression sur l'augmentation annuelle des coûts d'énergie. Et c'est pour ça que les Québécois devraient accorder autant d'importance à ces exportations-là qu'ils en accordent à la loi 134 et au fait que la Régie d'énergie ne coordonnera plus le processus d'augmentation tarifaire au Québec pendant 5 ans.
Et un excellent week-end à toi, Luc.
Merci à toi aussi. Bye.
7h24, on revient avec la chronique de Pierre-Yves McSween.